Mike.
Rencontre autour d'un auteur. Une émission proposée par Nicole Villeroux en partenariat avec la bibliothèque diocésaine.
Eh bien, nous nous retrouvons en ce début d'année. Alors avant tout, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Une bonne santé à tout le monde et échapper à qui vous savez. Et puis, on va commencer cette année en parlant d'un écrivain roumain, Panait Istrati. Alors, le dégel qui se produit un peu partout à la surface de la Terre fait sortir des choses enfouies depuis longtemps, en particulier des virus. Et le dégel des esprits survenu en 89 avec la chute du mur de Berlin a fait sortir la littérature des pays de l'Est d'une certaine réserve, on va dire. Et Panait Istrati, roumain, en a bénéficié. C'est quelqu'un qui a eu énormément de succès en France dans les années 20. Il est mort assez tôt et il était un peu oublié. Et puis la collection Phébus a eu l'excellente idée de rééditer en 3 volumes ses œuvres complètes. Et vous verrez que ça mérite largement le détour. Donc Panait Istrati est né en 1884 et il est mort en 1935. Donc effectivement, il y a déjà un certain nombre d'années. Et il y met à dire de lui « Je suis un brasier de désir ». Et c'est vrai, ça a été quelqu'un qui a brûlé sa vie et qui a essayé de la vivre pleinement. Il est né le 10 août 1884 dans une petite ville qui s'appelle Braila, qui est un port sur le Danube, à l'est de la Roumanie. Donc il est né dans l'embouchure du Danube. Il s'appelait Gerasim Panait Istrati. C'est un enfant naturel. Sa mère, il porte le nom de sa mère, Yotsa Istrati, était blanchisseuse à Braila. Et son père, Gerasim Vlasmis, c'est un grec de Céphalonie qui meurt alors que l'enfant n'a que 9 mois. Donc il est placé par sa mère chez sa grand-mère dans un petit village qui s'appelle Baldonivesti jusqu'à l'âge de 6 ans. Et il dira que ce furent ses années les plus heureuses. En 1896, il obtint son certificat d'études primaires et confiera avoir, dès l'enfance, eu deux plaisirs, les livres et les pérégrinations. Et c'est vrai que ces deux mots pourraient résumer toute sa vie, les livres et les voyages. Alors il va commencer à travailler très tôt, donc l'enfance effectivement aura été de courte durée. Il travaillera très tôt, de 6 heures du matin à minuit, en faisant de nombreux métiers jusqu'à 16 ans. Il sera apprenti dans un atelier des docks, puisqu'il vit dans un port, manœuvre sur les quais, garçon de course chez un armateur, avant d'apprendre le métier de peintre en bâtiment. Et on peut dire que sa devise, en tant qu'écrivain, c'est dire le monde sans tricher. On lui reprochera d'ailleurs d'avoir dit la vérité sur la Russie, enfin sur l'URSS. C'est quelqu'un qui n'admet pas le mensonge et qui veut absolument dire la réalité de la vie, dans toute sa dureté, aussi dans son bon côté et son mauvais côté. Alors je vais vous lire un premier texte tiré d'un de ses premiers livres qui s'appelle « Kir Nicolas ». Et Kir Nicolas, c'est quelqu'un qui vivait dans son quartier populaire. Entendu, ce sera comme maintenant, mais dis-moi un peu, psychimou, mon âme, qu'est-ce que toute cette lecture depuis le matin jusqu'au soir? Est-ce que tu aspires par hasard à devenir professeur? Non, on ne lit pas que pour devenir professeur, j'aime ça, voilà tout. Pourtant, tu as terminé l'école? J'ai fini l'école primaire, mais dans ces lectures, je trouve des choses beaucoup plus belles. Ah ah, je comprends, ce sont des histoires d'amour et d'aventure. Adrien protesta. Ce n'est pas ce que j'aime le plus, il y a mieux. Il y a quoi? Eh bien, du très sérieux. Kir Nicolas soupira. Ah, Poulakimou, mon poulet, il n'existe pas dans les livres du très sérieux, il n'y en a que dans la vie. Les livres n'enseignent pas comment il faut s'y prendre pour vivre heureux, et l'enseignerait-il qu'on n'en tiendrait pas compte? Tu te trompes, Kier Nicolas. Il y a du beau et du vrai dans les livres. Du beau et du vrai. Ce n'est pas cela qui fait vivre. Moi, cela me fait vivre et vivre heureux. Mais tu es pauvre, tu dois gagner ta vie. Ça ne fait rien. Je donnerai tout, juste ce qu'il faudra à mon ventre. Le reste de ce que je gagnerai sera pour les livres. Le pâtissier en fut sincèrement touché. Ah, tête dure, je vais te trouver un exemple. Notre famille en Albanie est croisée avec du sang grec. Ma mère avait deux frères aînés, Barba Spiro et Barba Vangelis. J'ai passé mon enfance dans leur intimité, et voilà ce que j'ai appris, vu et su. Leurs parents étaient aisés. Aussi, dès qu'ils s'aperçurent que Barba Spiro, le premier-né, montrait à l'école de grandes aptitudes, ils décidèrent de l'envoyer aux hautes études à Athènes. Là-bas, ce Rufianis sortit premier, ce qui fit perdre la tête aux parents. Ils firent des sacrifices et l'envoyèrent en Allemagne, puis en France, persuadés que leur fils allait devenir un Socratis. Et il devint, en effet, un gros professeur de philosophie à Athènes, écrivit des livres, fit beaucoup parler de lui, et se retira jeune encore dans notre village où il acheta des terres et continua d'écrire. Je n'ai jamais mis le nez dans ses bouquins, mais les connaisseurs prétendaient qu'il y avait là du beau et du vrai. Et cela était bien possible. Seulement, et c'est ici qu'est la question, à quoi sert le beau et le vrai? À quoi cela sert-il? Ah oui, sans doute, il servit bien à Barba Spiro, mais à lui seul. Il vivait enfermé, avec la femme riche qu'il avait épousée. Pas un pauvre n'osait frapper à sa porte. Dans sa maison, en robe et babouche, de soie mêlée de fil d'or, il était éternellement acharné à pondre du beau et du vrai. Il était plein de mépris pour nous et ne cachait pas son dédain aux paysans qui le saluaient lorsqu'il apparaissait dans sa voiture étalé comme un pacha. Le chagrin de le voir à ce point indifférent à tout ce qui n'était pas lui tua ses pauvres parents. Ils moururent la même année, laissant presque dans la misère ma mère et Barba Vangelis. Et lorsque celui-ci, un jour de colère, appela son frère égoïste et lui jeta qu'il devait sa réussite à la fortune paternelle entièrement dévorée par lui, Barba Spiro ordonna au domestique de le mettre à la porte en lui criant « Les simples d'esprit doivent se contenter de ce que Dieu leur donne. » Ainsi, pendant qu'il devenait grand philosophe, ma mère épousait un petit fromager et luttait durement avec l'existence. Barba Vangelis, lui, devenait fourreur, épousait par amour une fille honnête, mais pauvre, du pays à qui il apprit son métier, et ils travaillèrent ensemble jusqu'à ce qu'ils perdissent presque complètement la vue. Ils vieillirent avant le temps, leurs deux enfants furent emportés tout jeunes encore par des maladies. Puis la femme alla les rejoindre et Barba Vangelis resta seule. C'est surtout après son veuvage que je l'ai connu. Il lisait aussi beaucoup au long de ses nuits sans sommeil. S'il se décidait à écrire, ce n'était que pour répondre à des neveux tombés dans la misère loin de leur pays, accompagnant toujours ses lettres d'un petit mandat postal. La mort qui avait fauché toutes ses affections l'avait en même temps réduit à la gêne, presque à la pauvreté, mais son cœur était resté bon malgré les souffrances et les revers. Quand à 19 ans j'ai dû aussi quitter mon pays et aller tenter la chance ailleurs, ma mère veuve mit dans ma bourse ce qu'elle avait, mais ce n'était pas assez, alors je suis allé prendre une dernière visite à mes deux oncles. Barba Spiro, sentant bon le cosmétique, s'amusait avec ses trois enfants, leur apprenant dans le jardin à jeter le disque et le javelot. Il se montra visiblement importuné, m'offrit avec générosité un fromage de chèvre d'une oca et un vieux châle, puis me donna un baiser froid comme son cœur. Je suis sorti de chez lui tout en pleurs. Dehors, je jetais par-dessus le mur de sa propriété châle et fromage et me frottais les joues avec de l'herbe. Barba Vangelis me reçut avec affabilité, son sourire stoïque sur les lèvres. Il enleva ses lunettes, me fit asseoir et me parla beaucoup. Il me raconta les aventures de sa vie et ce qu'il fallait dire à un enfant qui s'en allait de par le monde, sans argent et sans expérience. Puis il tira une bourse de son armoire et l'enfermant entre mes mains qu'il serrait fortement, me dit « Voici, Matiamou, mes yeux, c'est tout ce que je peux te donner. Dépense avec précaution, mais ne sois ni avare ni insensible. » Mieux vaut souffrir la misère que de rester indifférent devant la fin de son prochain. Que le Seigneur te protège. Adieu. Moi, je ne te reverrai plus. » Et il me serra dans ses bras. Il est mort peu après. Voilà, Adriani, les livres ne rendent pas bons ceux qui les écrivent. Donc, vous voyez déjà aussi le mélange. La Roumanie est un mélange. Les gens qui sont là sont issus de beaucoup de brassages de population parce que la Roumanie a fait partie pendant très longtemps de l'Empire ottoman, puis ensuite de l'Empire austro-hongrois. Et c'est seulement à la fin de la guerre de 14 qu'elle a été constituée, en faisant des découpages plus ou moins hasardeux en Europe centrale. Donc, Istrati lui-même est originaire, est un mélange hein, entre une mère roumaine et un père grec. Donc, il va publier Kyrnikola en 1923, et ça va inaugurer une série qui s'appelle « Les récits d'Adrien Zographie ». Alors, Adrien Zographie, c'est le double littéraire de Panaït Istrati. C'est vraiment des romans autobiographiques. Adrien, comme lui, est peintre en bâtiment et fils illégitime d'un contrebandier grec. Alors, cette jeunesse, assez pauvre, vouée au travail, très tôt, n'est pas sans rappeler celle de Jack London. On peut dire que Panaït Istrati, c'est un peu le Jack London de la Roumanie, et aussi il rappelle Maxime Gorki. D'ailleurs, il sera très attaché à Maxime Gorki. Donc entre 1900 et 1916, il va vivre 16 années de vie vagabonde. Il va énormément se déplacer, notamment en se liant avec un vagabond russe, Mikhaïl Kaganski, qu'il ira rejoindre en 1906 en Égypte. Et jusqu'en 1913, il passera presque tous ses hivers en Orient, donc en Égypte, et les étés en Roumanie. Et il dira « Je suis venu au monde cosmopolite ». Et effectivement, s'il y a un univers cosmopolite, c'est bien l'univers roumain. Entre 14 et 17 ans, il va lire tout ce qu'il peut trouver en traduction dans des éditions populaires à bon marché. Tolstoï, Dostoïevski, Gorki, Balzac, Zola, Maupassant. Istrati a une très forte culture littéraire, qu'il s'est constituée étant enfant et adolescent à travers des éditions à bon marché, car c'était très courant à l'époque de faire des éditions à bon marché des grands classiques. Et Giono, par exemple, raconte qu'il dépensait ses premiers gains d'employé de banque pour acheter des petits classiques comme ça dans des éditions populaires et les lire. Alors il va ensuite, à partir de 1909, collaborer à la presse roumaine en commençant à publier des contes. Istrati est un conteur. Ses livres sont écrits par quelqu'un qui raconte des histoires. C'est véritablement l'aide, au sens grec du terme, de la Roumanie, avec des personnages tirés de l'histoire, du folklore, des traditions. En décembre 1913, il arrive à Paris où il va rester jusqu'en avril 14. Alors là, c'est évidemment son grand projet qui se réalise, c'est de venir à Paris. Seulement venir à Paris, ça n'est pas toujours facile, mais c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Alors voilà ce qu'il dit de Paris. Des élites humaines grelottant sous des chaumières et se nourrissant d'une poignée de maïs s'abreuvent avidement de généreuses pensées. Or de toutes les nations prodigues de cette pensée, la France nous est la plus connue. Elle nous empoisonne l'adolescence avec ses deux derniers siècles de littérature et de philosophie. Nous y croyons, nous la prenons au mot, nous nous emballons et nous venons parfois, sous un train ou à pied, lui demander des comptes. Et c'est ce qu'a fait quelqu'un dont je vous ai parlé l'année dernière, qui est le père de Joseph Kessel, qui était venu de Russie à pied pour faire ses études de médecine à Montpellier. Donc, il est dans toute cette tradition des étrangers attirés par le phare français au début du siècle. Alors, il retourne bien vite à Braila parce qu'il vit dans la misère à Paris. C'est pas le tout d'être en France, encore faut-il arriver à y vivre. Et donc il rentre chez lui, se fait éleveur de cochons, peintre en bâtiment, et se marie en 1915 avec sa première femme, Jeannette Malthus, qui est une militante socialiste. Mais Istrati est atteint de tuberculose, une maladie extrêmement fréquente à ce moment-là, et il va aller en Suisse entre 1916 et 1920 pour soigner sa tuberculose. Il arrivera à Lézin en mars 1916, et là, il va s'enfermer pendant 4 mois pour apprendre le français. Mais apprendre le français tout seul, avec un dictionnaire et les petits classiques Larousse. Donc c'est un travail colossal de la volonté, véritablement arriver à posséder le français. Lorsque sa mère meurt en avril 19, il est toujours en Suisse, et en août 19, il écrit à Romain Rolland parce qu'il vient de lire Jean-Christophe. Jean-Christophe est un roman que j'ai lu il y a bien bien longtemps, fin de mon adolescence, et qui m'avait absolument ébloui. C'est l'histoire d'un musicien. Et donc, Israti écrit à Romain Rolland 16 pages, une lettre de 16 pages en français, pour lui dire son admiration, pour lui dire qui il est et lui dire combien il l'admire. Parce que, à ce moment-là, il a vu dans un journal que Romain Rolland venait faire une conférence, des conférences en Suisse. Donc il écrit à l'hôtel où il est descendu. Mais il est déjà plus là. Donc cette lettre revient. Et en fait, Romain Rolland ne la lira que 2 ans après. Il revient en France en mars 1920, il arrive à Paris. Il va vivre un temps chez un fourreur du nom de Ionesco, qui l'héberge, oui, mais qui n'a rien à voir avec le nôtre, et qui va l'héberger, et là, il va lui permettre d'écrire. Il va quitter Paris pour aller à Nice, où en automne 1920, il est à Nice, dans une misère absolument noire, véritablement, il est au fond du trou, au bout du rouleau. Et là, le 3 janvier 1921, il fait une tentative de suicide dans le jardin Albert Ier. Il se tranche la gorge. Il est ramassé, conduit à l'hôpital, soigné. Et pendant ce temps-là, un de ses amis va chez lui chercher des affaires et trouve 2 lettres à Romain Rolland. Et la première, dont la première qui lui avait été retournée. Et cet ami va les adresser à Romain Rolland. Et donc, à ce moment-là, celui-ci va en prendre connaissance. Il sort de l'hôpital et il va devenir photographe ambulant à Nice. Vous savez, il se promène sur la promenade des Anglais et puis il photographie les touristes qui sont là. Et en mars 21, une nouvelle, Nicolae Tsiganou, paraît dans l'Humanité. Il revient en 1922 à Paris et rencontre à ce moment-là Romain Rolland. Et il va passer 15 jours chez lui à prendre les conseils de l'écrivain. Celui-ci va être un professeur assez sévère. Hein. Il va lui dire, voilà, il faut écrire comme ça, comme ça. Et Istrati va l'écouter. Et en 23, il publiera Kira Kiralina dans la revue Europe. Et Romain Rolland sera enthousiasmé par cet ouvrage. Et donc, Istrati va signer un contrat d'édition avec Rivière. Il se marie une deuxième fois, il se mariera 3 fois en tout, avec Anna Munsti à la mairie du 8e arrondissement à Paris. Puis, en 24, paraît en volume, cette fois-ci, plus en feuilleton, Kira Kiralina, et qui va connaître un succès, un emballement public extraordinaire. Et Panayot Istrati va être propulsé sur le devant de la scène. C'est à ce moment-là, quelques années après, qu'il va rencontrer quelqu'un qui m'est cher, c'est Frédéric Lefebvre, le fondateur des Nouvelles Littéraires, l'un des 3 fondateurs des Nouvelles Littéraires et critique littéraire extrêmement important dans l'entre-deux-guerres, natif d'Izée dans la Mayenne, auquel j'ai consacré 10 ans de recherche. Voilà. Donc Istrati va devenir un intime des Lefebvre, va passer de nombreux week-ends chez eux dans leur maison de campagne et sa fille, que j'ai eu la joie de rencontrer, de fréquenter pendant un certain nombre d'années, m'a dit combien Istrati la charmait le soir, elle était petite fille à ce moment-là, et lui racontait des histoires, comme les 1001 nuits, me disait-elle. Et effectivement, Kira Kiralina, ce sont des histoires enchâssées les unes dans les autres, comme les 1001 nuits. Et c'est là où on voit toute l'influence de l'Orient sur Istrati. C'est un homme qui fait le pont véritablement entre l'Orient et l'Occident dans ses œuvres. Et je vais vous lire un passage de Kira Kiralina. Donc, il parle de Braila, donc sa ville natale. En ce temps, le port n'avait point de quai et on pouvait avancer 10 et 20 pas jusqu'à ce que l'eau vous arrivât à la poitrine. Pour entrer dans une barque, il fallait traverser de petites passerelles en bois, les voiliers ancrés au loin frottaient leurs coques contre des pontons qui contenaient un bout du grand pont fait de billots et de planches. Une fourmilière de chargeurs turcs, arméniens et roumains, le sac au dos, allait et venait en courant sur ces ponts qu'ils pliaient sous le poids. Je commençais par contempler de loin tout ce monde, puis j'allais me mêler aux gamins des quatre ou cinq nations qui habitaient la ville, et je pris goût à leur jeu. J'aimais surtout les voir se baigner tout nus comme de petits diables bruns. Je voulus même me baigner avec eux, mais je fus effrayé en voyant comme ils se battaient dans l'eau, se plongeaient mutuellement la tête jusqu'à s'asphyxier, et un jour, ils ramenèrent sur la rive un petit Lipovan, blond comme moi, qui s'était presque noyé et qui ne soufflait plus. Alors je les quittai et me mis à contempler les Bargadis, allongés dans leur barque, somnolents au soleil, fumant ou chantonnant, et une fois je demandai à l'un d'eux en turc de me promener un peu sur l'eau. Il me répondit que pour se promener sur une barque, il faut payer quelques paras, et je ne savais pas ce que c'était d'avoir de l'argent sur soi et de payer. Il me trouva bête et m'expliqua qu'il gagnait sa vie en transportant des gens sur l'eau. En parlant, il regardait parfois derrière moi, clignait de l'œil, et puis toisant mes habits propres, il s'exclama « Ah, ces enfants de riches, ils ne savent seulement pas qu'il faut de l'argent pour vivre. » Alors je me retournai et vis un vieux turc, beau et richement vêtu, qui restait un peu à distance, appuyé sur sa canne noueuse de cornouiller et qui écoutait notre conversation. Il m'appela d'un signe du doigt et dit « Tu es turc ? Tu parles très bien la langue. Non, dis-je, je suis roumain. » Il me questionna longtemps, familièrement et honnêtement, mais je ne répondis pas à toutes ses questions. Cependant, il m'était sympathique. Alors pourquoi n'ai-je pas senti le malheur ? J'avais devant moi l'être odieux qui brisa ma vie et celle de Kira. Nazim Effendi, propriétaire de voiliers et fournisseur de chair de harem comme tant d'autres à cette époque. Le monstre fut avec moi tout ce qu'il y a de plus délicat, sérieux, calme, sobre. En prenant congé, se dirigeant vers son canot, tapissé et rembourré, il me dit d'un ton indifférent « Si par hasard tu avais l'envie de te promener sur l'eau, seul ou avec ta sœur, je vous offre gracieusement mon canot. » Et il appela son rameur, un arabe, lui donnant l'ordre et partit sur le fleuve. Je fus aussitôt enthousiasmé de cette offre, et je regrettais de ne pas en avoir profité tout de suite, je craignais de ne plus le rencontrer. À toutes jambes, je courus vers l'auberge et montai l'escalier du talus, en envoyant des baisers à Kira qui restait à la fenêtre. « Tu n'es pas gentil, me dit-elle, tu vas à tes amusements et tu me laisses seul ici à m'ennuyer. Tu t'amuseras demain comme une princesse dans un canot de baies, m'écriai-je en l'embrassant. Et je lui racontai à perdre haleine la merveille que je venais de découvrir. Ah, pourquoi ne fut-elle pas plus mûre, plus expérimentée que moi ? Elle goba mes paroles et perdit si bien la tête que d'impatience de se promener sur le Danube dans un luxueux canot à voile, elle eut une insomnie. Le lendemain matin, elle passa toute la matinée à sa toilette et à la mienne. Vers midi, nous allâmes au bord de l'eau. L'arabe avec la petite chaloupe était là, mais le turc n'y était pas. Audacieusement, Kira lui dit « As-tu toujours l'ordre de nous promener ?»« Oui, » répondit l'homme en se levant. Elle courut sur la passerelle et sauta dans le canot comme une biche. Alors, en la suivant, j'entendis un batelier dire derrière moi ces paroles que je me rappelais dans mes malheurs. « Quel beau gibier !» Je rapportai ces mots à Kira et demandai leur signification. « Ce sont des imbéciles, » fit-elle. Un faible zéphyr soufflait, et nous goûtâmes pour la première fois les délices de cette glissade sans heurts. Le canot avait la voile à peine gonflée, la rive s'éloignait quand brusquement nous commençâmes à sautiller sur les petites vagues du large. Kira eut peur et cria « Ne va pas au milieu du fleuve, longe le port !» L'arabe mania le gouvernail, nous revînmes vers la rive. Notre maison apparut sur le bord du plateau dans sa tristesse désertique. À côté, l'auberge avec les fenêtres ouvertes de nos chambres. Le canot les dépassa lentement, ainsi que la fourmilière du port, les innombrables voiliers, chalands et pontons. Et nous nous trouvâmes à l'autre bout, quand la chaloupe se dirigea vers une passerelle solitaire et accosta. À l'issue, le turc nous attendait debout. Il s'avança, salua Kira d'une longue révérence et l'aida à sauter à terre. Elle en fut très flattée. L'homme avait de la grâce dans ses mouvements et ses manières élégantes, que nous n'avions pas vues chez nos moussafirs hurluberlus. Ah, le pauvre cœur humain qui se livre à la joie de vivre, comme nous sommes aveugles. Par quelle étourderie n'avions-nous pas remarqué la prompte et suspecte présence du Turc à notre arrivée, ainsi que son absence adroite à notre départ. Il fut bien plus adroit encore. Devant son calme, sa réserve et sa barbe blanche, Kira poussa la folie jusqu'à lui demander de visiter son voilier. C'était ce qu'il voulait. Mais l'homme était sûr de sa proie, et il répondit en un turc d'une pureté exquise. « Pas tout de suite, charmante mademoiselle, mon voilier est accosté de l'autre côté du fleuve, sur le bras du massin, où il est en train de charger. Comme vous n'êtes pas habitué au remous, vous pourriez avoir mal, mais je satisferai votre curiosité prochainement. En attendant, je suis heureux de tenir ma chaloupe à votre disposition, et je serai honoré de vous en voir faire usage. » Disant cela, il nous salua d'un gros salamalek qui fit onduler ses vêtements de soie, porta ses mains au front, aux lèvres et à la poitrine, et monta dans le canot. Voilà, l'histoire commence des malheurs de Kira Kirillina et de son frère. Alors, le succès continue, et entre 25, 26, 27, Istrati connaît véritablement des années de gloire. En 25, il publie « Présentation des Haïdouks ». Alors, qui sont les Haïdouks? Ce sont des jeunes hommes révoltés contre l'oppression turque et grecque, qui prennent le maquis, on va dire, hein, qui s'en vont dans la campagne, dans les bois, se cachent dans les montagnes, et qui attaquent leurs oppresseurs. Ils les attaquent, les tuent, les volent, et pour redistribuer l'argent au peuple oppressé. Et donc, ils étaient constitués en potera, c'était en groupe, et ils étaient assaillis, pourchassés par des mercenaires qui étaient levés par les Grecs puis les Turcs pour les tuer. Et donc, présentation des Haïdouks, c'est l'histoire d'une de ces bandes, et on va suivre tour à tour la destinée de chacun. Et donc, quand je vous dis que ce sont des contes enchâssés comme dans les Mille et une nuits, c'est ça. Présentation de Haïdouk, c'est vraiment la structure des Mille et une nuits. Alors, chacun se présente et raconte une histoire, et ça peut être un conte eux-mêmes. Donc, je vais vous lire le conte du rat. Sais-tu, me dit un jour Groza, après une course folle dans les champs, sais-tu que le vent a failli devenir autrefois le beau-père du rat? Non, je ne sais pas. Oui, le vent fut à un doigt de donner sa jolie fille en mariage à l'animal le plus poltron de la terre, et n'y échappa que grâce à une réplique malicieuse. Le rat, un jour, est allé trouver le soleil et lui a tenu ce langage. « Écoute, astre puissant, je suis la créature la plus malheureuse de la terre, éternellement traquée par les hommes, les chiens et les chats, jour et nuit sur le qui-vive, prêt à chaque instant à tomber dans une embûche et mourant de peur. Et quel est mon crime? De ronger, parfois à mes risques et périls, un épi de maïs ou de fromage. Cela, mon ami, c'est immoral, fait le soleil, qui n'aime pas les rats. Avec ça, s'écrie le prétendant, ignores-tu que les maîtres du monde font la même chose? Et encore, sans risque ni péril, seulement voilà. Je me suis aperçu que pour se mettre à l'abri de tout danger, ils épousent toujours la fille d'un puissant de la terre et se font protéger par leur beau-père. Eh bien, je suis décidé à faire comme eux, et je t'ai choisi, toi, le plus puissant de tous. Donne-moi ta fille en mariage et protège-moi, j'en ai assez de cette vie. » Le soleil pris de panique élude promptement. « Tu te trompes, ce n'est pas moi le plus puissant de l'univers. Ben, »« Qui alors ?»« Le nuage. » Tu as bien vu, au beau milieu de midi, alors que mon désir serait de griller la terre, le nuage me couvre la figure et je suis fichu. Va, mon ami, chez le nuage, demande-lui sa fille, c'est le plus puissant. Le rat met sa queue en l'air, file chez le nuage, lui raconte sa peine. C'est toi le plus puissant, donne-moi donc ta fille. Moi? Moi le plus puissant, tu veux te moquer de moi? Pas du tout, le soleil me l'a prouvé, c'est bien vrai, tu l'obscurcis dès que tu le veux. « Je l'obscurcis. Pour combien de temps? Le moindre vent et il ne reste plus rien de moi. C'est le vent, oui, qui est le plus puissant, sois-en sûr. D'ailleurs, dès que tu lui en parleras, il sera content, il est très vaniteux. Mais je te préviens qu'il est également fort instable dans ses sentiments. C'est un gaillard. Si gaillard qu'il soit, il sera tout de même obligé de me donner sa fille. » Et voilà le rat chez le vent, lequel justement s'amusait à bercer sa fille dans un hamac. Il lui fait connaître ses peines et le but de sa visite. Ne me prends pas pour un parvenu, conclut-il. Je veux bien continuer à trotter pour gagner bon pain, mais je vois que sans la protection d'un fort, mon existence deviendra impossible. Tout le maïs, tout le fromage sont accaparés par les forts, les faibles se mettent la ceinture. Mais tu n'es pas le moins du monde un faible, s'écrie le vent, au contraire, tu es plus fort que moi. Quoi? Fit le rat très flatté. Vois-tu cet écueil dans la mer? Alvant qu'il soit où tu le vois, il était accroché à cette montagne qui s'avance comme un cap. Il y a quelques milliers d'années, des seigneurs forts mais stupides se mirent à bâtir là-haut un château stupide et fort comme ses maîtres. La belle montagne fut dépouillée de son gibier, la mer désolée par ce repaire de pirates, et de hautes murailles en laidirent le beau paysage. Tu sais que je n'aime pas les entraves à la liberté, j'aime courir et faire tout courir avec moi. Je me mis donc à souffler de toutes mes forces sur ce nid de rapaces. Ils étaient bien accrochés. Ah, les milliers d'années de peine que j'ai gaspillées à vouloir disperser cette vermine. De siècle en siècle, elle devenait plus nombreuse et plus arrogante. Pas moyen, le rocher ne bronchait pas. À peine par-ci par-là un pan de mur s'écroulait-il, qu'il était rétabli. Navré, époumoné, je me reposais un matin sur l'autre rive du détroit, quand soudain un fracas formidable me réveilla en sursaut. La mer se leva comme une muraille et faillit m'engloutir. C'était le rocher soutenant le nid des pirates qui avait dégringolé de lui-même. De lui-même, pas du tout. J'accourais, je furetais et je fus vexé de constater que ce que je n'avais pu faire moi en quelques milliers d'années, vous les rats, vous l'aviez accompli en quelques générations. Tu comprends? Ces seigneurs-là avaient entassé dans leur cave toute l'abondance de la terre, et qui dit seigneur et abondance dit rat. C'est la même race, et la race des rats, rats, avait si bien fait son devoir que pour disputer l'abondance aux rats seigneurs, que le rocher, creusé par les uns pour nicher, par les autres pour dénicher, avait fini par s'écrouler. Voilà pourquoi je te disais tout à l'heure que tu es plus fort que moi. Retourne-t'en donc, mon ami, épouse une fille de ta race, et sache que Dieu a si bien distribué la force parmi ses créatures qu'avec un peu de modestie, tout le monde pourrait s'en trouver satisfait. Voilà. Et puis un autre passage où il décrit une ville. Alors c'est une autre histoire, toujours d'un autre haïdouk. Groza abandonna la charrette dans l'écurie d'une auberge moujique de la périphérie. L'accès des voies pavées était défendu aux charrettes pauvres. Seuls les carrosses y pouvaient pénétrer. Intimidés par ses richesses et très mal à notre aise, nous circulions admiratifs, au milieu des promeneurs infatués qui allaient et venaient, parlaient, égrenaient de gros rosaires d'ambre et nous dévisageaient comme si nous eussions été des veaux à deux têtes. La plupart de ces boyards étaient vêtus de caftans et de lichéliques ornés des plus beaux dessins. D'autres avaient une mise qui ne se portait que dans les pays du soleil couchant. Ces derniers étaient plutôt de jeunes fils de boyards, revenus des universités étrangères. Ils portaient des moustaches rasées et des lorgnons à un seul verre, ce qui me fait croire qu'ils étaient devenus tous borgnes à force d'étudier. Des femmes peu, mais divinement belles, savamment fardées. Toutes têtes nues, les cheveux lissés en arrière et descendus sur les tempes, légèrement voilées de gaze fine et transparente, corsage extrêmement serré à la taille et robe large, énorme, vraie cloche rasant le sol. Elles se traînaient langoureuses au bras de leurs époux et parlaient du nez avec des voix de perroquet. Ici, me dit Groza, on ne peut entrer nulle part sans avoir dans sa bourse autant d'argent que nous en gagnions en un été. Pour que ces gospodards et leurs familles puissent vivre dans de telles villes comme dans les autres plus grandes encore. Il faut que nous autres les serfs, nous leur en fournissons les moyens. C'est pourquoi ils ont des potérages qui les défendent, eux, et nous obligent, nous, à travailler pour leur bonheur. Moi, je ne veux pas être serf, je serai donc bientôt haïdouk. Alors nous tous, les haïdouks, nous soulèverons les villages et mettrons fin à l'injustice. L'église d'un seul bois était faite, disait-on, d'un seul, d'un unique chêne, depuis le toit jusqu'au voile de l'autel. C'était l'heure de la grand-messe, un peu avant midi. Sur le coup, nous n'osâmes y entrer, car l'accès de cette maison de Dieu, tout comme celui des boutiques richement achalandées, n'était permis qu'aux gospodards. Cabriolets, équipages, chevaux de cavaliers, cochers, valetailles attendaient, dans un pêle-mêle pittoresque, la sortie des maîtres. Ceux-ci priaient dans une église à eux seuls réservée, fût-elle modestement d'un seul bois, de même qu'ils allaient se débaucher dans des maisons à leur usage, hypocritement appelées chaumières. Nous attendîmes la fin du service religieux et les départs de ces bons chrétiens qui atténuaient les commandements du Christ en accaparant la terre. Ils sortirent avec des figures de charcutiers dévots et montèrent dans leur véhicule au milieu de la frayeur que leur apparition au son des cloches impériales provoquait dans les rangs de leur fourbe domesticité. Nous nous glissâmes derrière cet apparat pompeux et nous tenant par la main comme des coupables, Grosza et moi pénétrâmes dans l'église vide où l'odeur du musc laissé par les vêtements libertins luttait victorieusement avec l'odeur de l'encens. Ici, ma stupeur fut bien plus grande que celle que j'avais éprouvée devant les magasins luxueux. Quelle différence entre la pauvreté de l'église de notre commune et la richesse de celle-ci! Elle était aussi royalement achalandée que les boutiques. Sous la projection des vitraux peints, j'aperçus tout d'abord le voile sombre de l'autel, lourd de moulures et de sculptures. Au milieu et tout en haut, un dieu triomphateur, rayonnant de santé malgré sa barbe blanche, soupesait dans sa main gauche une terre ignoble qu'il avait faite à son image, alors que de son index droit il nous menaçait de je ne sais quelle punition. Sur les deux battants de la porte de l'autel, les saints apôtres Pierre et Paul, aussi bien portant que leur maître, faisaient office de geôliers, le premier soutenant l'usine chrétienne, le second portant les clés du paradis orthodoxe. Puis toute une galerie de saints au regard de policiers, martyrs et gendarmes de l'église, dont les vêtements étaient d'argent et d'or massif, deux rangées de fauteuils richement sculptés, portant chacun gravé sur le dossier le nom de l'heureux paroissien, trois lustres suspendus au plafond, deux candélabres brûlant devant le Christ et la Vierge et deux grands chandeliers placés devant les stalles, tous chargés de cierges pur cire, et dont plusieurs, m'étonnant par leur dimension, me fit croire que les péchés de ceux qui apportaient de telles offrandes devait être en proportion. Alors, il part pour un long voyage en URSS en octobre 27. Il va y rester jusqu'en février 29. Pourquoi ce voyage? Tout simplement parce que l'URSS fête dignement le 10e anniversaire de la Révolution. Et contrairement à beaucoup, Istrati ne s'attend pas à aller visiter le paradis terrestre. Mais enfin, il ne s'attend pas à découvrir ce qu'il va voir, non plus. Il va faire une rencontre importante, il va rencontrer un autre invité, c'est Kazantzaki, l'écrivain grec, avec qui il va voyager dans le Caucase, puis en Grèce, puis revenir en URSS. En mai 28, il va passer 3 mois près de Moscou, dans une datcha à 40 km de la ville, et il rencontrera Maxime Gorki, puis voyagera à travers toute la Russie avec Kazantzaki. Et Istrati se mêle au peuple, il ne va pas du tout assister aux cérémonies, ou du moins le moins possible, il veut vivre avec les Russes, on va dire de la rue, véritablement. Et comprend à ce moment-là que le régime soviétique, c'est loin, alors il savait que c'était pas le paradis, mais à ce point-là, vraiment, il est très déçu. Et donc, il va écrire un livre qui s'appelle « Les chardons de Baragan », qui est un très beau roman, alors qu'il est en Russie, et c'est encore un livre qui se passe en Roumanie, dont je vais vous lire le début. Vous allez voir la qualité de l'évocation, la qualité d'écriture. En plus, le dépaysement, parce que pour nous, la Roumanie d'Istrati, je pense que pour la plupart d'entre nous, la Roumanie est un pays inconnu. Et Istrati décrit une Roumanie loin des grandes cités, c'est véritablement celle des campagnes, et en particulier celle des bouches du Danube, qui est une immense zone marécageuse, qu'il décrit très bien. Quand arrive septembre, les vastes plaines incultes de la Valachie danubienne se mettent à vivre pendant un mois leur existence millénaire. Cela commence exactement le jour de Saint-Panteleimon. Ce jour-là, le vent de Russie, que nous appelons le Mouskal ou le Krivats, balaie de son souffle de glace les immenses étendues. Mais comme la terre brûle encore à la façon d'un four, le Mouskal s'y brise un peu les dents. N'empêche, la cigogne songeuse depuis quelques jours braque son œil rouge sur celui qui la caresse à rebrousse-poil et la voilà partie vers des contrées plus clémentes, car elle n'aime pas le moscovite. Le départ de cet oiseau respecté, un peu redouté de nos campagnes, il met le feu à la chaumière si on abîme son nid, départ attendu, guetté par le Yalomitsean ou le Brahilois, met fin à l'emprise de l'homme sur la terre de Dieu. Après avoir suivi à l'infini le vol de la cigogne, le campagnard enfonce son bonnet sur ses oreilles, tousse légèrement par habitude, et chassant d'un coup de pied le chien qui se fourre entre ses jambes, il pénètre dans sa maison, que les enfants commencent à ramasser des usquatouries. À ces paroles sombres, femmes et marmailles, tout sautent et frémissent à leur tour par habitude. Partie la cigogne, partie. Alors le baragan prend le commandement. Il le fait d'abord passivement, comme un homme qui se coucherait face au sol et ne voudrait plus se lever ni mourir. C'est un géant. Étendu depuis l'éternité sur toutes les terres que le soleil grille, entre la dolente Yalomitsa et le Danube grognon, le baragan est durant le printemps et l'été en guerre sournoise avec l'homme laborieux qu'il n'aime pas et auquel il refuse tout bien-être, sauf celui de se promener et de hurler. C'est pourquoi on crie partout dans les pays roumains à celui qui se permet trop de liberté en public « Hé là, est-ce que tu te crois sur le baragan ?» Car le baragan est solitaire, sur son dos pas un arbre, et d'un puits à l'autre on a tout le temps de crever de soif. Contre la faim non plus, ce n'est pas son affaire de vous défendre. Mais si vous êtes armé contre ces deux calamités de la bouche, et si vous voulez vous trouver seul avec votre Dieu, allez sur le baragan. C'est le lieu que le Seigneur a octroyé à la Valachie pour que le Roumain puisse rêver à son aise. Un oiseau qui vole entre deux chaînes de montagne, c'est une chose qui fait pitié. Sur le baragan, le même oiseau emporte dans son vol la terre et ses lointains horizons. Allongé sur le dos, vous sentez l'assiette terrestre qui se soulève et monte vers le zénith. C'est la plus belle des ascensions que puisse faire le pauvre dépourvu de tout. De là vient que l'habitant du baragan, que nous appelons Yalomitséan, est une créature plutôt grave. Et quoiqu'il sache rire joyeusement à l'occasion, il aime mieux encore écouter avec déférence. C'est que sa vie est dure, et il espère toujours que quelqu'un viendra lui enseigner la façon de s'y prendre pour tirer un meilleur parti de son baragan. Rêve, pensée, ascension et ventre creux, voilà ce que donne de la gravité à l'homme né sur le baragan, cette immensité qui cache l'eau dans les tréfonds de ses entrailles, où rien ne vient, sauf des chardons. Il ne s'agit pas de ces chardons qui poussent comme le maïs et qui font une belle fleur rouge, duvetée, que les jeunes filles de chez nous tondent le soir de la Sainte Oadère en chantant que les nattes des fillettes deviennent grosses comme la queue des juments. Les chardons dont il est question ici apparaissent dès que fond la neige, sous forme d'une petite boule comme un champignon, une morille. En moins d'une semaine, ils envahissent la terre. C'est tout ce que le baragan peut supporter sur son dos. Il supporte encore les brebis qui sont gourmandes de ce chardon et le broutent avidement. Mais plus elles le broutent et plus il se développe. Il grandit toujours en boule et atteint les dimensions d'une grosse dame Jeanne quand s'arrête sa croissance et quand le bétail lui laisse la paix. Car il pique alors affreusement. Elle sait se défendre, cette mauvaise graine, tout comme la canaille humaine. Plus elle est inutile et mieux elle sait se défendre. Mais quelle certitude avons-nous de l'utile et de l'inutile? Aussi longtemps que le Yalomitséan se démène, s'entête à arracher à son sol une poignée de maïs ou quelques pommes de terre, le baragan n'est pas intéressant. Il ne faut pas le visiter, c'est une chose bâtarde, comme une belle femme vêtue de loques, comme une mégère parée de diamants. La terre n'a pas été donnée à l'homme rien que pour nourrir son ventre. Il y a des coins qui sont destinés au recueillement. C'est cela le baragan. Il commence à régner dès que l'homme laborieux rentre chez lui, dès que les chardons deviennent méchants et que le vent de Russie se met à souffler. Cela se passe en septembre. Alors, il termine son voyage en Russie, il rentre à Paris et publie en 1929 un brûlot qui s'appelle « Vers l'autre flamme » qu'il aura écrit avec Boris Souvarine et Victor Serge. Alors là, c'est une réaction violente et il va y avoir une réaction violente et hostile, aussi bien des turiféraires de la gauche que de ceux de la droite. Cette campagne va faire en sorte que Panaïs Istrati soit muselé, parce que comme il dit la vérité sur l'URSS, il faut absolument l'empêcher d'être publié, parce qu'on est en pleine glorification de la République, de l'URSS. Et toutes les revues, les unes après les autres, vont refuser de publier les articles en défense que va écrire Panaïd Istrati. Seule une seule revue va l'accueillir, sont les nouvelles littéraires. Lefebvre, qui est son ami, lui ouvre les colonnes pour qu'il puisse se défendre. Mais Istrati est brisé par cette campagne ourdie contre lui, et même Romain Rolland va l'abandonner. Et ça, c'est la trahison de trop. Romain Rolland est marié, vit avec une Russe, une de ses égéries russes arrivée en France, avec sans doute pour mission de séduire des intellectuels. C'est comme ça qu'Aragon va se retrouver le compagnon d'Elsa Triolet, et qu'il y en aura d'autres, et Romain Rolland est le compagnon d'une de ses femmes. Et donc Romain Rolland abandonne Istrati. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui va le briser. Alors, je vais vous lire un petit passage de Vers l'autre flamme. L'URSS est le pays le moins bourgeois du monde, mais qui aspire le plus à la bourgeoisie, à l'exemple de toutes les nations qui sortent lentement de la vie patriarcale, telles nos Balkans. C'est pourquoi je pense que ce fut un malheur que la plus grandiose tentative d'édifier le socialisme ait été faite justement en Russie. Le Russe et aussi l'Ukrainien, le Géorgien, le Tatar, l'Arménien, qui ne s'embarrassent pas de doctrine, sont des hommes pleins de cœur, pleins de tendresse, riches d'amour et de mélancolie. Ils aiment éperdument leur langue, leur terre, leur ciel. Tous les chants populaires et toutes les littératures de ces pays en témoignent. Et eux-mêmes le témoignent au point de faire éclater leur rhapsodie en plein banquet communiste à côté de l'Internationale. Comment diable voulez-vous donc faire sortir ces peuples de leurs izbas et les noyer du jour au lendemain dans les gratte-ciel américains, au-dessus desquels le rossignol ne chante pas, où l'homme est une brute mécanique et où l'existence n'est qu'une manière de tuer la vie. Disons qu'il y a eu 2 millions de communistes bourrés de doctrine, vidés de cœur et de cervelle, automates du fordisme et de l'américanisation, pour lesquels les sentiments ne sont qu'une infirmité bourgeoise et l'amour un simple coït. Il en reste 150 millions, toute une humanité, qui vit et veut vivre en cultivant toujours mieux ce que nous avons de plus éternel en nous, de plus émouvant aussi. Faut-il l'empêcher de vivre? Au contraire, dira-t-on, la Constitution soviétique, ces peuples-là disposent maintenant d'eux-mêmes. Je réponds oui, ils disposent d'eux-mêmes, à la manière de ces jeunes filles médiévales qui étaient libres de tousser à volonté, mais qui se faisaient enfermer dans un couvent dès qu'elles ne voulaient pas épouser l'homme choisi par leurs parents. J'ai eu un soir une longue conversation avec une paysanne intelligente, bessarabienne ou grecque, je ne veux pas trop préciser car je pourrais la faire envoyer en Sibérie. Cette femme me donna la plus navrante version de la façon dont une mère soviétique peut disposer de ses enfants qui demeurent toute sa vie. Nous ne sommes pas des communistes, me disait-elle, parce que nous ne savons pas au juste ce que cela veut dire. Dans notre village, les communistes sont des intrigants, la politique, et c'est tout. Malheur à qui ne pense pas comme eux. Mais nous avons été les bolcheviks dès le début. Mon mari s'est battu dans la guerre civile, a fait partie du premier soviet et mourut des suites de ses blessures. Pour ma part, je ne suis qu'une pauvre mère qui veut élever ses enfants. Le garçon et la jeune fille que voilà, le plus honnêtement possible. Personne ici n'est adversaire du régime, ni pratiquant. Personne ne peut nous en vouloir. Et cependant, on nous prive de toute possibilité de gagner notre vie. Pourquoi? Parce que je dis à mes enfants qu'ils ne doivent pas s'inscrire à la jeunesse communiste, et ils sont de mon avis. Car c'est comme ce môle-là, passe en chantant et crache sur les vitres de la maison paternelle, insulte les vieux et intrigue entre eux, plus que les grands. Est-ce là être communiste? Que les lecteurs sachent que les témoignages comme celui que je viens d'apporter, ainsi que d'autres que je pourrais dire, soit l'avantage, soit au désavantage du régime, n'interviendront dans ce livre que bien rarement par pur hasard, et ne signifieront rien sinon que j'ai voulu m'exprimer d'une façon plus que d'une autre. Contrairement à mes prédécesseurs sympathiques aux soviets, je ne rapporte pas une collection de témoignages pour et contre copieusement farcis d'impartialité. Le témoignage chez moi, l'impartialité, je l'ignore. Et je ne pratique pas la sympathie ou l'antipathie, mais l'amour et la haine. Ce que je rapporte ici, ce sont des convictions qui me coûtent cher et qui pourraient un jour me coûter la vie. Ce serait justice, je n'ai adoré dans ma vie que ce qui m'a coûté très cher. Aujourd'hui, quand la vie m'assène des coups propres à assommer un hippopotame humain, plus que jamais je m'agrippe à mon amour et à ma haine. De là mes convictions, fille de ma foi dans les hommes que j'aime, que je hais, et que je voudrais tant servir. Qu'on se rappelle qu'en arrivant en Russie, j'ai donné des claques à la vermine égoïste et prudente de cet ignoble Occident. Ces claques allant 16 mois plus tard demander mon visa à Monsieur l'ambassadeur de France à Moscou, me les a mises d'abord sous le nez, puis très dignement, sans rien exiger de moi, me permit le retour. C'est toujours le même langage que je tiens à l'égard de cette vermine qui ne sacrifierait pas un cheveu de sa tête pour faire le salut d'une humanité folle. Mais maintenant, je suis invaincu. Ceux sur qui je croyais, dur comme une pierre, pouvaient m'appuyer, c'est encore de la vermine, une vermine qui sacrifierait tout pour le salut de sa chère doctrine, en broyant des innocents. Voilà. Donc vous comprenez qu'avec ça, on ne peut pas se faire des amis, et curieusement, il aura des ennemis de tous les côtés. Alors, désespéré par cette campagne, par ces trahisons, il va de nouveau tomber malade, il est gravement atteint, il a les poumons complètement rongés, et il va rentrer désespéré en Roumanie, s'enterrer, il s'est acheté une maison, il va épouser sa troisième femme, Marca Izescu, qui est plus jeune que lui, et fort heureusement, parce qu'elle va se battre pour l'œuvre de son mari, et il va rentrer, il va être l'homme qui n'adhère plus à rien, c'est comme ça qu'il se définit, l'homme qui n'adhère à rien. Mais sa voix de conteur s'essouffle, il n'arrive plus à écrire, sa poésie ne vient plus, et il considère que sa veine est tarie. Et il se marie donc pour la troisième fois en 1932 et meurt le 16 avril 1935 à 50 ans, à Bucarest, et il est enterré à Bucarest. Je vais vous lire un dernier passage. Voilà ce qu'écrivait une amie au sujet de Panaït Istrati. Nous tous qui l'avons bien connu, nous savons en effet qu'il n'a jamais voulu adhérer à rien, ni composer avec personne. Il est resté fidèle à ses idées, à son idéal de vérité. Il ne tenait à rien qu'à sa probité intérieure. Qui peut se flatter en effet de rendre véritablement dans tous les aspects de son moi cet homme réellement extraordinaire, échappant à toute norme, ce volcan sans cesse en bouillonnement intérieur, et pour cela, jamais le même, changeant, divers, difficilement analysable, et qu'il faut avoir bien connu pour oser se risquer à l'essayer. En tout cas, mon cher ami, si comme vous m'en avez parlé, vous vous décidez à écrire une étude sur Istrati, il y a une mise au point à faire sur certains faits qui lui sont reprochés, sur certaines interprétations erronées. Quand par exemple Ionesco dit qu'Istrati a craché sur Romain Rolland, sur la Russie, sur les travailleurs, je suis certaine, ou qu'il a dépassé sa pensée, ou qu'il l'a mal traduite, ou que peut-être la narratrice fait une erreur d'interprétation. En dépit de ces explosions, de tous ces écarts de langage, nous savons combien il aimait et vénérait Romain Rolland. Nous savons aussi qu'il admirait l'effort et l'élan du peuple russe, et qu'il est resté jusqu'à son dernier jour l'ami des travailleurs. Ceci, mon cher Jean, vous devez le dire, parce que c'est la vérité. Istrati fut parfois un pauvre homme, il fut surtout un homme malheureux, victime de sa nature instable, tourmentée, incompréhensible, mais il fut un grand cœur et un grand conteur, et ceci aussi, il faut le dire. Voilà ce que je voulais vous dire sur Panaït Istrati, et vous inciter absolument à le lire, parce que je pense que vous découvrirez un grand écrivain. Véritablement. Donc, ces œuvres sont d'accès facile maintenant, puisqu'elles ont été reprises chez Phébus. Donc, vous pouvez, il y a une très bonne introduction d'ailleurs. Vous pouvez les trouver facilement et vous verrez le talent de cet homme, qui est bien oublié maintenant, mais qui est reconnu en Roumanie comme un grand écrivain. Alors, la prochaine fois, ce sera une femme, Nancy Houston. Canadienne, donc ce sera un autre univers, l'univers canadien, français, anglais et surtout celui des Indiens, des autochtones, des populations autochtones, qui sont très présents dans son œuvre. Voilà, écoutez, merci d'être venu et de votre fidélité, et encore une fois, bonne année et surtout de bons livres, surtout, lisez.
C'était Rencontre autour d'un auteur par Nicole Villeroux, en partenariat avec la bibliothèque diocésaine.